Radio Okapi.
Identité culturelle. Radio Okapi.
Identité culturelle.
Messieurs, mesdames, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver sur ces ondes de la radio Okapi dans ces rendez-vous de la promotion de la culture congolaise. Aujourd'hui, nous parlons de la communication ancestrale et son rôle dans le maintien de la paix dans les sociétés traditionnelles. Le 13 février dernier, c'était la journée mondiale de la radio, célébrée cette année sous le thème « La radio et la paix ». Parce que la radio a un rôle à jouer dans la construction des sociétés pacifiées aujourd'hui, comment dans les sociétés ancestrales, avant l'apparition de la radio et de toutes les nouvelles technologies actuelles, la communication était-elle organisée pour rétablir la paix et comment capitaliser ces pratiques ancestrales pour construire une paix durable aujourd'hui? Voilà les questions au centre de ces numéros du magazine Identité culturelle. Je suis Rosalie Zawadi à la présentation de ces magazines. Bienvenue.
Radio Okapi.
À Goma.
Okapi.
Sur 95.5 FM.
Okapi.
Dans les sociétés ancestrales, tous les échanges portant sur les règlements des conflits avaient pour socle l'engagement. L'engagement était sacré, la parole donnée était presque immuable. Pour aborder ces sujets, nous allons commencer par les territoires de Lubero, Nord-Kivu, et c'est avec Jacques Vaheni, chargé des cours à l'université. Il nous explique d'abord cette communication au niveau de la famille.
Alors, au niveau local, au niveau de la famille par exemple, on avait toujours les conseils des familles qui sont des assises où papa, maman avec les enfants peuvent se mettre ensemble pour parler de toutes les questions qui fâchent, de toutes les questions où on ne s'accorde pas. Et avec le fait que dans la mémoire collective, hein, on savait que les relations familiales sont essentiellement basées sur le respect. Donc si papa tranche, et généralement il tranchait pour le bien-être de la famille, on s'est limité à suivre la voie donnée par papa. Donc si deux enfants sont en conflit, en tout cas il suffisait des conseils de papa pour que les choses marchent. Au niveau des familles élargies, c'était aussi pareil, parce que dans plusieurs ethnies et tribus qui sont ici à l'Est, on a la notion de ce qu'on appelle les Ekaanda, qui a été conçu généralement comme un espace où les hommes des villages se mettent ensemble chaque soir et chaque matin. Chaque soir, pourquoi ? Pour évaluer la journée. Chaque matin, pour planifier la journée, pour savoir qui va agir à faveur de quelle famille, parce qu'il y a aussi les mutualités, il y a la solidarité qui passait par là. Et l'espace Kianda, c'était aussi l'espace de résolution des conflits, parce que le chef du village, il avait le Kianda un peu comme son tribunal. Il n'était pas la seule personne à prendre la décision, mais le chef du village s'accompagnait des sages de ces villages. Et tous ensemble pouvaient débattre d'une question avec généralement un ton convivial. Donc, les problèmes pouvaient arriver, mais pour les aborder, on ne recourait pas trop rapidement aux sanctions punitives, mais c'était d'abord le dialogue qui était vraiment de mise, parce que les sociétés traditionnelles, dans la plupart de nos ethnies ici, ce sont des sociétés qui étaient vraiment assises sur le dialogue comme principe de règlement des conflits. Et c'est à travers cet espace qui est dans le Baraza que tout cela pouvait être réglé. Bien sûr, comme je l'ai dit pour la famille, avec le fait que quand on dit celui-ci c'est votre responsable, celui-ci c'est votre dirigeant, tout le monde se mettait d'accord que si celui-là donne une orientation, et alors tout le monde peut suivre ça. Oui. Il y avait aussi une façon pour les gens de mener les dialogues. On savait que lorsqu'on est dans le Kianda, personne ne peut insulter personne. Donc il y avait des vocables qui étaient utilisés dans ces espaces de dialogue, des expressions qui amènent plutôt vers la résolution des conflits. C'est comme ça que même les personnes qui adoptaient un mauvais langage, un langage diviseur, on leur donnait des qualificatifs. Mm-hmm. On disait par exemple, mais celui-ci, il a un langage violent, il a un langage sorcier. Il y a des gens qu'on qualifiait de sorciers à cause du type de langage qu'il utilise. Mm-hmm. Donc ça rappelle une notion moderne qu'on appelle la communication non violente. Elle était déjà de mise dans nos civilisations traditionnelles. Aujourd'hui, elle est théorisée comme approche de résolution des conflits, mais même déjà, dans les langages traditionnels, c'était recherché.
Ouais. Et cette manière de gérer les conflits, cette manière de communiquer positivement, sans violence, comment la capitaliser aujourd'hui? Même s'il y a des théories, mais on voit des violences qui perdurent sur des années, sur des décennies, et qui n'arrivent pas à être réglées et qui continuent à faire des victimes.
Bon, je pense qu'il faut revenir à certaines valeurs qu'on qualifie de traditionnelles, mais moi je trouve que ce sont des valeurs positives qu'il faudrait un peu remémorer. Bon, à un certain moment, à l'époque de Mobutu, il a dit « retour à l'authenticité ». On l'a corrigé un peu, on a dit « recours à l'authenticité ». Donc, on peut recourir à certaines valeurs. C'est le cas, bien sûr, du sens de l'engagement. Le sens de l'engagement, c'est le fait que quand un homme dit quelque chose, quand une femme promet de réaliser quelque chose, il faudra qu'il reste attaché à cette parole jusqu'à ce que cette parole soit exécutée. Et ça, c'est un élément qui, normalement, dans nos sociétés traditionnelles, était fortement utilisé. L'engagement, donc les ekihango chez les Nande, par exemple. Donc, et ça, sur les places symboliques, on disait, par exemple, bon, voilà, nous signons un pacte de non-agression entre deux communautés. Mmh. Et comment ça se faisait? On pouvait dire, oui, nous déclarons verbalement que telle communauté n'attaquera jamais telle autre. Et pour symboliser cela, on disait, bon voilà, on va faire échange de sang, les ekihango. Et ça amenait les gens à ne jamais transiger sur les décisions prises. Mmh. Contrairement à aujourd'hui, où les gens, ils vont à Nairobi, ils vont à Luanda, ils signent des accords. Et après, il se rétracte. Alors, où est l'essence de l'engagement? Où est l'essence de Ekihango? Donc, je crois que l'éducation a rencontré une dépravation des mœurs et ça demanderait que nous puissions retrouver quelques racines africaines dans lesquelles, par exemple, le sens que l'Africain donne aux relations humaines soit retrouvé.
Parce que nous parlons de la communication ancestrale qui était vecteur de paix, des cohésions, des cohabitations. Pratiquement, quand on parle de recourir à l'authenticité, aux pratiques ancestrales, quelles actions on peut entreprendre déjà actuellement, par exemple dans la région où nous sommes secoués depuis des décennies?
Oui, dans la région, je crois qu'il y a beaucoup d'exemples auxquels on peut recourir. Il faudrait qu'on revienne à certaines pratiques comme le fait que les gens peuvent régulièrement se mettre ensemble, parce que aussi ça manque. Aujourd'hui, dans la vie que nous avons dans les cités comme Goma, dans la ville comme Goma, même dans la même famille, les gens se voient rarement. On a perdu l'essence du dialogue. Avec cette sorte d'individualisme trop prononcé, chacun pour soi, on dit Dieu pour tous, mais je ne sais pas comment Dieu sera là pour tous alors que nous parlons rarement. Donc il faudrait qu'on remette dans nos communautés le dialogue et le dialogue permanent. Étant donné que dans les temps ancestrales, les gens se retrouvaient généralement de la même communauté, de la même ethnie dans un village, ça, c'était le cas le plus fréquent. Actuellement, les choses ont changé. On est dans une ville, on a plusieurs origines. Il faudrait qu'on mette ensemble des espaces de dialogue multiculturels où les gens capitalisent, bien sûr, les différences pour faire avancer la communauté. On a déjà des exemples comme ça. On a déjà les barrages intercommunautaires qui est un exemple positif. Mais il faudrait que tout le monde ils fassent foi. Il faudrait que lorsque les gens se retrouvent dans le cadre des barrages intercommunautaires, il faudrait qu'ils se rappellent le sens de l'engagement. Moi, Munande, moi, Muhutu, moi, Mutembo, moi, j'accepte d'adhérer à ces barrages et j'ai dit, je ne ferai jamais du mal à mon frère, même si lui vient d'une autre tribu. C'est ça ce qui manque actuellement. Parce que normalement, avec les barrages, aujourd'hui, au Nord Kivu, on n'apprendrait plus que non, telle tribu, c'est sur le compte telle autre tribu. Donc ça, c'est ma première recommandation. Mais une autre chose que l'on peut bien sûr exploiter, c'est le fait que déjà, dans les sociétés traditionnelles, lorsque les gens étaient à conflit, ils privilégiaient, vraiment avant de se lancer dans la bataille, ils privilégiaient d'abord la discussion. Est-ce que nous pouvons éviter une bataille acharnée par un règlement pacifique? Mais ce mécanisme-là, souvent, on ne sait pas quand est-ce que ça s'est passé chez nous. On apprend que voilà, la guerre vient de commencer. Et aussi, dans ces discussions-là, il y avait échange de femmes. Oui, il y avait échange de femmes. On pouvait dire, voilà, telle communauté veut s'ériger contre telle autre. Mais lorsqu'ils se sont mis ensemble, ils ont dit non, au lieu de nous massacrer à la machette, échangeons de femmes, devenons les uns bofs pour les autres, et le conflit est réglé. C'est encore possible aussi actuellement. C'est encore possible. Mais tout ça, pour que ça marche, il faut que l'essence de l'engagement revienne et que la manipulation des uns par les autres puisse cesser.
Après Lubero, nous allons voir à présent comment la communication ancestrale favorisait la paix au niveau restreint et élargi dans les communautés de Rutshuru, toujours au Nord Kivu. Et c'est avec M. Eugène Rouanzé, il est journaliste dans ces territoires, vivant en déplacement à Goma aujourd'hui à cause de la guerre chez lui.
D'une manière coutumière, culturelle, par exemple, c'est deux familles qui se disputent les limites de la parcelle. Il y a deux parties déjà au conflit. Il faut maintenant soit aller vers le chef du village ou les sages du village ou de la communauté ou de la tribu. Et tout dépend de la grandeur du conflit, du problème. Et bon, on fait confiance soit aux voisins, soit aux sages du clan. À l'époque, il y avait les cadres au niveau du chef coutumier. Ou s'il y a un problème, il faut les deux parties au conflit aillent vers les chefs coutumiers. Ça peut être un moami, ça peut être un chef du village qui a une autorité. À l'époque, les chefs coutumiers avaient certainement la force d'agir et ils étaient beaucoup plus attendus. Et c'est comme cela que les gens se réunissaient. Soit c'est la partie plaignante qui va directement aller exposer son cas et dire « Non, moi j'ai un petit problème avec mon voisin, par exemple au sujet des limites de la parcelle. » C'est-à-dire, si les gens se sont échangés des paroles, la coutume dit ceci, soit c'est un coq avec un bidon de la boisson locale, soit les kasiksi ou les moussourourou, ou si les gens se sont bagarrés avec, par exemple, le sang qui a suivi après, soit c'est une chèvre et tout. Et là, je vous dis, on respectait tout ce qui ressortait de ces différentes médiations. Alors, c'est cette communication-là qui régnait entre les familles et par la suite, les partis qui faisaient confiance aux sages ne se plaignaient pas de la résolution qui sortait. Et là, ça faisait du bien lorsque vous faites confiance à un chef, à un sage du village. Lorsque vous exposez votre problème, le problème est résolu. Et après, c'est la réconciliation, c'est la médiation réussie.
Et donc, dans les sociétés ancestrales, il n'y avait pas des conflits qui pouvaient prendre beaucoup de temps. Les gens, ils respectaient les décisions des sages, les décisions des chefs.
Non, madame, vous allez comprendre qu'à l'époque, nos ancêtres respectaient beaucoup les décisions et avaient moins de problèmes comparativement à cette période ici. À l'époque, on va dire, il y avait la paix. Quelqu'un pouvait avoir un problème avec son voisin ou un papa a un problème avec son frère dans un même village, la personne qui est lésée va parcourir même 10 km pour aller voir ses frères qui sont de l'autre côté. Là, ça signifie que même pendant les heures tardives, vers la nuit, les gens pouvaient facilement quitter, aller voir les membres de la famille à 10 km, à 20 km à pied. C'est de la paix parce qu'il n'y avait plus d'insécurité à l'époque-là. Il n'y avait plus autant de problèmes qu'aujourd'hui. Il n'y en avait pas. Et vous allez vous rendre compte, quand c'est un frère qui quitte, il parcourt 15 km. Une semaine après, on va lui dire, va chez ton frère avec qui vous avez les problèmes. Quelques jours après, vous allez revenir parce qu'il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas la technologie moderne comme aujourd'hui. Les mêmes personnes en conflit vont prendre rendez-vous pour aller voir leurs parents qui sont à 10 à 20 km à pied. En arrivant là-bas, la médiation va être faite et puis ils vont revenir comme frères et la paix va régner. Donc à l'époque, la paix était garantie sur base de ces petites pratiques ancestrale des médiations qui réussissaient pas avec beaucoup de peine, pas avec beaucoup en fait, d'investissement dans les conflits, même comme aujourd'hui où il faut aller au tribunal, il faut payer autant de cautions. À l'époque, il n'y avait pas de cautions, c'est seulement donner les exigences coutumières. Et après cela, les gens se réconciliaient et ils vivaient en paix entre eux.
Et maintenant, la dernière question. Pour vous, comment est-ce qu'on peut capitaliser cette communication ancestrale qui permettait de régler les conflits aujourd'hui au niveau de la communauté, même au niveau régional?
Au niveau de la communauté, au niveau régional, actuellement, nous devons toujours faire recours, comme disait l'ancien président, recours à l'authenticité, Mobutu, que je cite. Il faut toujours tirer des exemples qui réussissaient à l'époque-là et les inculquer aujourd'hui dans nos enfants, dans cette nouvelle génération. Malheureusement, il faut fournir beaucoup d'efforts parce que avec le monde actuel, parfois nous oublions les côtés positifs de nos grands-parents. Nous oublions ce qu'ils tirent. Aujourd'hui, quelqu'un peut être dans une ville, dans un village, dans une région, mais il ne connaît même pas ses origines. Il ne connaît même pas ses familiers, proches ou lointains. Il ne connaît pas si tel est mon oncle paternel, tel est mon oncle maternel. Et ça perd cet équilibre, cet élan-là qui avait animé, n'est-ce pas, l'esprit de tous les ancêtres. Et moi, je pense pour que les choses aillent mieux aujourd'hui, nous devons fouiller nos origines, aller si ceux qui ont encore la chance d'avoir les grands-parents dans les villages, malheureusement, la guerre a envahi notre région, mais on devrait, parfois on dit qu'il y a des Congolais qui ont des origines de l'autre côté dans la région. Bon, si la paix était garantie, on pouvait aller demander l'histoire. Nous avons appris que nous avons des souches ici. Est-ce qu'il y a moyen d'aller saluer nos familiers qui sont au Rwanda, au Burundi et en Ouganda? Et ceux qui sont au Burundi, au Rwanda, qui peuvent avoir des relations au Congo, au Kenya et dans d'autres pays, qu'ils viennent aussi pour qu'on puisse échanger et cela peut, en tout cas, venir comme remède à tous les problèmes que nous traversons actuellement, tout en interrogeant, n'est-ce pas, notre histoire, parce que notre histoire nous a beaucoup enseigné par rapport à la recherche de la paix, par rapport à la cohabitation. Donc, nous avons beaucoup d'intérêt à interroger notre histoire pour que nous arrivions à vivre dans la paix. Si la paix est menacée dans la région, c'est parce que nous sommes en train de penser que nous sommes dans un autre monde. Pourtant, nos grands-parents ont vécu dans un monde qui semble être meilleur que celui-ci.
Utechira mwa watafabihue Nata jerveka nani kivando Dige majiga nindige Ndige Mamega nira vera mwedu Ndige oh, oh. Ndige majiga nindige Ndige Mamega nira vera mwedu Ngene muto Shake wete mwami mbinga Patri varumi minani Benjamin Efu viviri sikore netataye Esina anchira vivue Efu viviri sikore nemali Sina njira vifuwe Shorushe valingene Wavere tatengara mwetuwe Unaika kutilenya Hateja kwa kera mwetu Hateika mumutukalie Hateja kwa kekichanga Hateika kupikipikie
Kona eto ire ihate hofi Hale itenja kunolite lyonu
Iye lona eto ire ihate hofi Hale itenja kunolite lyonu Abantu batagetsanya eh Batechiwe na Luanda eh Ate mukobyo ate ho Ate jifunu jiangote Ate mboko ate jibingu Ate kirono bushenge Lona yeto ire ihate ho Ale ite ya kunolite lyono eh
Lona yeto ire ihate ho
Mae
ni bake banita Iberi simwerai Amu hanye miserable Major muhindo mulisi delfin
Uchituwe muhuma e Tunemukundi muhuma e
Mamwisho mulio
Uchitulie kwa mubuko e Kware batwa ire mulofu e
Olae toire ihate hofi Ale itenja
Kone pleze katindu
Dige majika nindi Mega nira vera mwetu Ndige o
Tola eto ire ihate hofi
Olive kishala
Ale itenja kunoli telio
Kalinda chikandi gadi Iye kweri Tata danibu londo
Mama ano mabo tata Tuta ira duwangana e Uli uyongwa ni mwawe
Mungu wa sheva hasha rope
C'était la chanson Kikandi de l'artiste Fabrice Mufiritsa du Nord Kivu. À travers ses œuvres, il fait la promotion de la culture Hundé. Et dans cette chanson, Kikandi traduisait nostalgie. Il rappelle la vie harmonieuse dans les sociétés ancestrales. Une harmonie aujourd'hui perdue, mais que nous pouvons retrouver si nous nous engageons, chacun à son niveau, à promouvoir nos valeurs. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur Radio Okapi. Nous parlons de la communication ancestrale et de sa place dans le maintien de la paix et de l'harmonie dans les sociétés traditionnelles. Après les Nord Kivu, voyons comment la communication au Kasaï contribuait à rétablir l'harmonie, d'abord en famille. Et c'est avec M. David Kalenda Mukendi.
Chez nous, c'est dans le Grand Kasaï. Alors, la communication en famille de manière ancestrale, les rôles étaient attribués d'abord à chaque parent. Alors, lorsque tu as un père qui est fâché contre toi, première chose, tu ne discutes même pas, tu ne t'opposes même pas à lui. Si tu ne peux pas faire ce qu'il t'ordonne, parce qu'en ce moment-là, ce n'est plus de la collaboration, c'est carrément un tyran qui t'ordonne de faire ce qu'il veut que tu fasses, que tu le veuilles ou pas. Si tu n'es pas d'accord avec lui, tu n'as pas besoin de le dire. Tu cours pour voir sa belle famille. Ça veut dire, tu vois l'oncle maternel quand tu es un garçon ou tu vois la tante maternelle quand tu es une fille.
Pourquoi pas la sœur du papa avec qui vous êtes en conflit ou son frère, mais plutôt du côté de la mère.
Alors, du côté de la mère, pourquoi ? Parce que le père, quand il discute avec sa belle sœur, ce sont des discussions amicales. Ce sont des discussions détendues. Alors que lorsqu'il s'agit de son frère, son grand frère, il va subir aussi le dictat. Il peut prendre ça comme une sorte d'affront. Lorsque c'est son petit frère, il peut se dire que c'est ce petit frère qui vient me manquer de respect. Mais quand il s'agit de beau-frère ou de sa belle-sœur, il est plus ou moins tendre parce qu'il sait que ce sont ces gens qui, dans leur jeune âge, ont eu d'une certaine manière à contribuer à ce que j'ai et la femme que j'ai aujourd'hui. Alors, généralement, lorsque les pères sont fâchés, dans la culture Luba, il faut éviter qu'ils vous sortent les premières phrases de malédiction. C'est ce que vous devez faire, parce que les malédictions vous atteignent lorsque vous les écoutez. Il faut fuir avant qu'il ne sorte sa première phrase. Et quand vous revenez avec l'oncle...
Et généralement, qu'est-ce qu'ils disent pour maudire les enfants?
Les autres peuvent ne pas y croire, mais ton père peut décider en te maudissant que tu ne vas jamais avoir d'enfant ou que tout ce que tu vas entreprendre ne marchera pas. Alors, il ne faudra pas que tu entendes ces phrases-là de ton père. Ce sont des phrases que tu dois éviter d'entendre et tu dois courir pour aller chercher un oncle maternel lorsque tu es un garçon, une tante maternelle lorsque tu es une fille. Et en revenant vers lui, c'est l'oncle qui est ton bouclier, c'est la tante qui est ton bouclier. C'est ton oncle, si tu es un garçon, c'est ton oncle maternel qui va engager une discussion. Et cette discussion, généralement, c'est autour des arachides, c'est autour des maniocs, ce qu'on appelle les chombachakabiola. Il engage une discussion avec ton père et il fait comprendre à ton père qu'il ne doit pas se fâcher, que l'enfant ne doit pas être maudit. Alors, que le père ait raison ou que le père ait tort, puisque nous sommes dans une société africaine où les aînés sont censés ne pas avoir tort, il va détendre l'atmosphère, l'oncle ou la tante, et t'appeler pour demander pardon à ton père. Et là, l'oncle aura contribué, sur base des éléments culturels, à résoudre un conflit qui pouvait prendre des proportions qu'on ne maîtriserait pas.
Là, c'est une communication au niveau de la famille qui était bien structurée de sorte à ramener la paix en tout temps.
Oui, c'est justement ça. Ce sont des mécanismes culturels qui existent pour régler des conflits au niveau de la famille. Donc, les oncles, les tantes ont un rôle, parce que quand on dit « manseba », c'est vrai, il n'a aucun rôle, je dirais, métaphysique par rapport aux tantes paternelles, mais ils ont un rôle social dans le règlement de certains conflits, notamment en famille.
Cette communication ancestrale qui, au final, visait la paix, l'harmonie en communauté, comment la capitaliser aujourd'hui dans nos relations familiales, communautaires et même régionales?
Alors, je pense que si vous regardez dans les cultures de la région des Grands Lacs, il y a beaucoup de similitudes. Mes deux parents ne sont pas forcément Luba. Mais lorsque je regarde le rôle de l'oncle et le rôle de la tante dans les deux cultures, c'est la même chose. Il y a moyen de capitaliser cela lorsque nous avons connaissance. C'est parce que les acteurs politiques ou les acteurs, nous qui vivons en ville, nous n'avons pas forcément connaissance de ces outils, de ces stratégies, de ces éléments culturels qui peuvent permettre de résoudre un problème. Je donne un exemple. Lorsqu'il y a deux villages qui sont en conflit, la question pouvait se régler par un mariage entre le fils de la communauté A et la fille de la communauté B. Mais est-ce que cet enfant-là qui grandit, va-t-il un jour décider de tuer ses oncles maternels? Va-t-il décider un jour de tuer ses oncles paternels? Du moment où vous êtes lié par le sang, verser votre sang devient sacrilège. Ça veut dire que dans l'avenir, mais on se dira, mais il faut qu'on attaque tel village. Je me dis, mais dans ce village-là, il y a notre sœur qui est là-bas, qui a nos enfants là-bas, il y a nos neveux qui sont là. Et lorsque on s'est dit, bon, on va attaquer tel autre village, on s'est dit, mais notre frère a pris une épouse de ce village-là. Pourquoi nous allons faire en sorte qu'il y ait le deuil? Parce que s'il y a le deuil dans ce village-là, il y aura forcément les deuils chez nous. Il y a aussi ce qu'on appelait des pactes de sang. Que ce soit le vin de palme, que ce soit les liqueurs communément appelé le toko, les gens se faisaient des incisions. Donc, je fais une incision, il y a une goutte de mon sang, une goutte de ton sang, que l'on met dans ce verre et nous allons boire ensemble. Parce que si jamais il y avait du poison, on va mourir ensemble. Mais le fait de boire cela veut dire que même si je te trahis à ton insu, puisque c'est un pacte de sang, si vous allez dans le domaine, je dirais, métaphysique, au-delà de ce qui est visible ancestral, le pacte de sang, même dans la Bible, c'est la même chose. Si Jésus-Christ a versé son sang, c'est pour signifier que le pacte de sang, il est énorme, il est grand. Vous trahissez celui avec qui vous avez un pacte de sang, la mort va vous atteindre, forcément. Parce qu'en mettant votre sang dans ce verre, c'est carrément livrer votre âme à l'autre et il peut en faire ce qu'il veut. Si lui n'en fait pas grand-chose, les esprits de vos ancêtres qui ont vu cela vont d'une certaine manière se décharger sur vous. Donc vous trahissez celui avec qui vous avez un pacte de sang, vous mourrez. Ce qui fait que ceux-là qui ont eu à faire des choses comme ça, ils en sont morts. Je prends l'exemple des Lulua et des Luba. Aujourd'hui, un Lulua ne peut pas attaquer un Luba parce qu'il existe des pactes. Et toute personne, ça, le vieux Victor Kasongambunga m'a fait remarquer cela, toute personne qui veut créer un problème, un conflit entre les Luba du Kasaï occidental et du Kasaï oriental, c'est lui qui finit par mourir. Donc ça, vous les vérifiez dans les livres d'histoire. Et vous verrez que ce sont des choses qui existent. Mais il y a moyen aujourd'hui de les capitaliser. Nous sommes tous africains dans la région. Il y a moyen de les capitaliser pour résoudre certains problèmes ou certaines questions de conflits qui existent entre nos pays.
C'est la fin de ce magazine Identité culturelle sur Radio Okapi. Nous avons parlé aujourd'hui de la communication ancestrale et de sa place dans le maintien de la paix et de l'harmonie dans les sociétés traditionnelles. Merci à nos différents intervenants, Jacques Vaheni, Eugène Rouanzé et David Kalenda. Ce magazine a été produit sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Je suis Rosalie Zawadi. Je vous remercie de l'avoir suivi. Vous pouvez les réécouter sur notre site, les www.radiocapi.net. C'est avec plaisir que je vous retrouve prochainement sur ces ondes de la Radio de la Paix pour parler de notre riche culture. En attendant, portez-vous bien. Au revoir.